Bonjour à tous, on est sur le mug numéro 12.
12.
Nous sommes le 30 septembre 2019 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Manifestement, on nous reçoit bien, on nous voit bien. On est chez Marion ce matin. Avant de commencer, on voudrait dire un petit mot d'abord à toutes les personnes qui sont dans la région de Rouen. On leur souhaite bon courage aujourd'hui et dans les temps à venir. Ce n'est pas une situation facile. Et deuxième petit mot aussi pour les gens qui nous écoutent en live et qui nous regardent en replay. On voudrait vous remercier pour tous vos messages de remerciement pour les 200K, et oui, la chaîne principale Nowtech, tout doucement, dimanche soir, sans faire de bruit, vers 11h30, je crois, a passé la barre des 200 000 abonnés. C'est une étape pour nous. Il y aura une vidéo un jour. On n'avait pas du tout prévu que ça arriverait aussi vite. Donc voilà, en attendant un peu, mais on vous prépare une belle vidéo sur le sujet. On est tout vert. Oui, nous avons des reflets verts. C'est le choix artistique. Marion, est-ce que tu as passé un bon week-end ?
J'ai passé un bon week-end. Et puis certains me disent aussi que le générique n'a pas lagué. Normalement, c'est la deuxième fois où ça ne lag pas parce que j'ai trouvé une astuce sur mon ordinateur qui est de fermer tous les logiciels et tous les onglets, mis à part ceux que j'utilise pour l'émission. Donc normalement, ça devrait économiser le petit ordinateur.
Oui, mais est-ce que tu as fait tes sauvegardes ? Ok, on va enchaîner tout de suite. Et aujourd'hui, au programme, donc, on aura l'Okawa avec toutes les news fraîches qui sont arrivées pendant le week-end. Ensuite, on aura la tartine. Ça va être une tartine tendance Marion ce matin, puisqu'on va vous parler de Tchernobyl, la mini-série. Et on terminera par les camps de fac, où vous pourrez nous poser toutes les questions. Et puis voilà, et ben, je te propose, Marion, qu'on commence tout de suite par l'Okawa.
Allons-y.
Et le Kawa ce matin, on va commencer par une news qui n'est pas... Enfin, c'est une news, c'est une grosse enquête qui a été faite par le Wall Street Journal. Et ce n'est pas très très réjouissant, effectivement. L'Internet est rempli d'images d'agressions sexuelles d'enfants. Que s'est-il donc passé ? En fait, effectivement, l'année dernière, les grandes entreprises de la tech ont compté 45 millions d'images et vidéos d'enfants agressés sexuellement diffusées sur les plateformes. Donc, une longue enquête du New York Times, vous pourrez aller lire l'enquête hein, si vous voulez en savoir plus, par les journalistes Michael H. Keller et Gabriel G.X. Dance, tentent de comprendre pourquoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2008, aux États-Unis, une loi américaine promettait 60 millions de dollars par an pour lutter contre le fléau. Et ce budget, déjà, n'a pas été vraiment débloqué en temps et en heure. Et effectivement, c'est une énorme prolifération de ces images d'agressions sexuelles d'enfants, puisque à cette époque-là, on avait à peu près 1 million d'images. C'était déjà énorme. Et aujourd'hui, on est à 45 millions. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on est le matin et c'est trop sordide, mais il faut savoir que les images sont de plus en plus horribles, les situations sont de plus en plus horribles. J'ai eu du mal même à lire l'article parce que y a, voilà, on ne peut même pas imaginer, mais ça devient de plus en plus violent en fait ce qu'on trouve. Les forums sont de plus en plus enfouis. Effectivement, avec le chiffrement d'un certain nombre de messageries, le dark web, les criminels pédophiles se planquent de plus en plus, effectivement, sur Internet, mais en même temps jouissent d'une certaine impunité. Et justement, un des problèmes, c'est effectivement l'obligation des réseaux de signaler. La seule obligation qu'ils ont, c'est de signaler le contenu aux autorités. Et ça n'a pas été forcément fait. Et notamment, Tumblr était, d'après l'enquête, le très mauvais élève, effectivement, de ça. Alors, effectivement, l'autre problème, c'est que les 60 millions de dollars par an pour lutter contre ce fléau n'ont pas été forcément bien dispatchés, n'ont pas été redistribués, sachant que le budget initial était déjà insuffisant, hein, d'après les spécialistes. Aujourd'hui, un agent du département de la sécurité intérieure de Homeland Security dit « on pourrait deux fois plus, qu'on serait quand même dépassé ». Donc c'est quand même hyper inquiétant. Ce qui est inquiétant dans ce type d'article, et c'est un petit peu pour faire le contrependant, c'est que la grande conclusion, c'est de dire que le chiffrement d'Internet, des messageries, permet aux pédophiles d'agir en toute impunité. Donc la réponse facile, c'est de dire « arrêtons le chiffrement ». Ces gens-là n'ont pas droit à la vie privée, donc il faut qu'on enlève la vie privée à tout le monde pour pouvoir combattre le fléau. En fait, on le sait, nous on en a souvent parlé dans l'émission, c'est une solution simple à un problème complexe. Le chiffrement a aussi des effets bénéfiques, mais c'est un des effets effectivement extrêmement maléfiques du chiffrement, c'est que les mauvaises personnes peuvent effectivement se cacher plus facilement. Donc c'est un phénomène inquiétant, hein, cette recrudescence. Pour l'instant, pas de solution simple ou de solution rapide au phénomène. En tout cas, on encourage effectivement toutes les personnes qui travaillent à lutter contre ce fléau à obtenir les budgets qu'il faut et obtenir les outils qu'il faut pour mieux combattre contre ça. Voilà, c'était pas une super nouvelle à faire dès le matin,
mais
il fallait
la
faire. Oui, c'est un peu hard.
Ouais. On enchaîne sur un sujet beaucoup plus léger, hein, puisqu'il s'agit d'une rumeur sur le prochain iPhone. Alors oui, non, on ne parle pas de l'iPhone 11 qui est sorti récemment, mais on va parler de l'iPhone 12 prévu pour 2020. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça serait concernant le notch. Vous savez, ce notch, cette encoche en haut de l'écran de l'iPhone. Je peux vous montrer.
No notch.
Voilà, no notch. Ça a été donc. C'est apparu pour la première fois en 2017, hein, avec l'iPhone 10, justement, que je viens de vous montrer. Tout ça, ça a générer des réactions sur Internet. Alors, l'origine du notch, c'était quand même pour accorder plus d'espace à ce fameux écran de smartphone en contournant les contraintes hardware présentes, hein, les objectifs, les différents capteurs pour le Face ID également. Il y avait des contraintes hardware. Il y aurait une rumeur, hein, qui a été communiquée par Ben Geskin, comme quoi l'iPhone 12, ou en tout cas un des iPhone 12 pour 2020, ne comporterait plus de notch. Moi j'aime bien quand on fait des révélations un an avant la sortie d'un iPhone. C'est sûr que ça risque de générer du clic, surtout que les iPhones viennent de sortir, donc on est quand même en pleine période de buzz sur les vidéos, les articles, etc. Et comment mieux buzzer que de parler de l'iPhone 11 ? C'est de parler de l'iPhone 12.
Moi j'ai une info exclusive pour l'iPhone de 2021. Il s'appellera peut-être l'iPhone 13. C'est lancé. D'y croire ou pas. Hein.
Chaud. Exclusivité. Donc encore une fois, attention à toutes ces rumeurs, qui sont déployées genre un an avant. Mais pourquoi ils parlent déjà du 12 ? Bientôt, on va manger des bûches de Noël au mois d'août. C'est à peu près ça, Technis Savoir. On n'y est pas encore.
Je suis pas contre la bûche de Noël au mois d'août. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein, jamais contre la bûche de Noël.
Mais faites bien attention à toutes ces rumeurs qui excitent notre curiosité et notre impatience. Fausse impatience maintenant, on est quand même de moins en moins excité par ce type de nouvelles quand même, hein. Je sais pas pour toi.
Moi, alors quand j'ai commencé à lire l'article, ce que je me suis inquiété, je veux pas que Apple abandonne le Face ID, j'adore le Face ID, je sais que tu le détestes, moi j'adore le Face ID, il est amélioré sur les nouveaux iPhones en plus, maintenant je peux presque le déloquer à plat sur la table et tout. J'espère juste, moi à la limite le notch me dérange pas parce que je préfère avoir Face ID et un notch que de pas de notch et pas avoir de Face ID. Mais ça, c'est moi.
Mais bon, c'est vrai que je pense que ça doit froisser les designers d'Apple de voir qu'il y a des applications qui s'amusent à cacher le notch.
Bon, ils l'ont caché eux-mêmes sur les boîtes, sur les visuels qu'ils mettent. Ils sont complexés par leur notch.
Bah, ils ont de quoi. Hein.
Assume ton notch. Non. Assume ton notch. Non, c'est notre message du jour.
Ils devraient avoir honte du notch. voilà pour la petite news plus légère.
Tout à fait. On enchaîne. On va parler de l'Oculus Quest. J'ai fait une faute d'orthographe à Oculus ce matin dans le titre. J'ai mis 2 C. Il n'y a qu'un C à Oculus. Sachez-le. Merci Samuel d'avoir corrigé. Comme quoi, hein, on a des articles qui viennent à peu près de n'importe où, puisque, enfin n'importe où, de partout, puisque c'est l'usine digitale qui a pris en main l'Oculus Quest. Il y a effectivement une grosse présentation Facebook et une grosse nouveauté qui arriverait au début de l'année 2020 qui a été présentée à l'Oculus Connect 6, c'est qu'effectivement, on va pouvoir reconnaître ses mains directement sans porter des gants ou des trucs. C'est le casque qui a des micro-caméras. Je peux pas montrer le visuel, mais si tu peux le montrer, toi, à l'écran.
Oui.
Tu prends juste mon article, voilà. Et en fait, ça va être des petites caméras qui vont être sur la visière, qui vont vous permettre de reconnaître vos mains. Moi, ça m'a fait penser, Marion, parce que l'autre jour, pour rigoler, j'ai ouvert, tu te souviens, on avait testé l'Oculus, le tout premier Oculus Rift, c'était la version dev, c'était il y a 6 ans, 7 ans maintenant, je crois. Et ta première réaction à toi, quand tu as mis ta visière, tu as mis tes mains devant la visière, tu as fait « Ah, mais on voit pas les mains ». Et moi, j'étais là, non, mais elle ne se rend pas compte, quoi, toute la technologie qu'il faudrait pour... Mais tu as eu une réaction très humaine et très naturelle. Tu es arrivé dans un autre monde, un peu comme quand on plonge sous l'eau ou quand... Un des premiers trucs qu'on fait, c'est « Est-ce que je vois mes mains ?»
Mais c'est la conscience de soi, en fait.
Exactement.
C'est, on a besoin de se voir dans un monde virtuel. On veut savoir à quoi on ressemble et comment
l'appréhender. Comment appréhender ce monde avec l'appréhension des mains, tout à fait. Et donc, là, ça va être, tu vois, ce dont tu as rêvé, entre guillemets, puisque tu n'auras pas besoin de prendre des trucs dans la main pour pouvoir diriger, et tu pourras voir tes mains les retourner, agiter tes doigts. Alors, pour l'instant, il y a quelques limitations techniques, notamment si on passe une main devant l'autre, la main qui est derrière va disparaître, et on ne pourra pas se saisir les mains. Il y a encore, il y a encore des limitations, puisque toute la technique sera basée effectivement sur des caméras qui vont repérer le bout de chaque doigt et les articulations pour une représentation réaliste des mains devant soi. L'usine nouvelle constate quand même une très légère latence. Donc, il y a des choses à peaufiner. Et pour l'instant, on ne pourra pas utiliser ce tracking de main en même temps qu'on utilise les Oculus Touch, qui sont, tu sais, ces poignets. On ne pourra pas avoir les mains plus les poignets. Genre, tu prends ta poignée, puis tu fais autre chose avec les mains.
Alors, voilà, c'est ça. Parce que j'avais essayé le dernier casque Oculus. Et j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, je me rappelle avoir vu
des choses.
Maintenant, et en fait, tu as raison, c'est parce que je tenais les manettes.
Exactement.
Les manettes qui permettent de déclencher une reconnaissance
exactement,
et des gestes. Mais du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'il faut quand même apprendre pour effectuer des gestes que tu fais sans les manettes. Il faut apprendre des combinaisons de touches, en fait. Donc, on s'y fait, hein, mais ça demande forcément un petit apprentissage. Mais c'était déjà pas mal, hein, j'avais trouvé avec les manettes. C'était vraiment assez cool.
Alors, justement, ce système de reconnaissance des mains ne va pas exclure, par contre, les manettes. Parce que, par exemple, dans le jeu vidéo, hein, tu tiens ton gun, tu seras bizarre avec tes deux mains à tenir ton gun comme ça. Donc, on préfère avoir l'appréhension des manettes et la précision des manettes pour se diriger. Donc, ça ne concernera pas forcément le jeu vidéo, mais par contre, c'est pour tout ce qui est application professionnelle. Ça évitera d'abord d'avoir des devices trop compliqués pour les professionnels et pouvoir naviguer dans les interfaces juste avec son doigt. Tu vois, là la chatroom, je pourrais faire défiler la chatroom comme ça. On aura quelque chose de beaucoup plus naturel avec les mains pour les applications professionnelles. Donc, c'est surtout fait pour le professionnel pour l'instant, mais bien évidemment, on pourra également les utiliser dans les jeux et d'autres applications dans le monde de la VR. Si la VR décolle un peu plus, Ce qui, à mon avis, va arriver. Mais
et,
bon.
Et question que tout le monde se pose, là, je suppose, c'est est-ce qu'on est toujours malade après avoir joué 5 minutes ?
Non, ça, c'est des problèmes qui ont largement été résolus. Bon, après, il y a des gens qui seront toujours réticents.
Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres.
Plus sensibles
aussi,
que d'autres, hein. Ou moins. Patrick, par exemple, n'était pas du tout sensible, je ne me souvenais pas. Mais ça ne lui faisait rien, lui.
Oui, je me rappelle.
Ouais. Donc, après, oui, tout le monde n'est pas équivalent. Aujourd'hui, la VR est quand même dans un produit de niche hein, pour du gamer. Et il n'y a pas encore de jeux qui sont sortis où on te dit il faut absolument une visière pour jouer, sinon t'es 10 fois moins bon, quoi. C'est, à mon avis, ce qui manque encore sur la VR. Jérôme parle tellement plus calmement le lundi matin. C'est que je suis apaisé le lundi matin. Après, j'ai le stress de la semaine qui arrive. Mais effectivement, la VR, je pense qu'on est en train d'atteindre, notamment avec les Quest, des gammes de prix qui sont déjà plus accessibles au plus grand nombre. D'ailleurs, certains vont peut-être demander, système de main, est-ce que ça sera sur le Rift S, le haut de gamme d'Oculus ? C'est pas annoncé pour l'instant, mais fort probablement que oui. Mais là, l'idée, c'est vraiment le développer sur les produits Oculus milieu de gamme, entrée de gamme, pour répandre cette interface. Voilà, on va bientôt pouvoir toucher du doigt la réalité virtuelle.
Magnifique. Et puis, on parlait de réalité virtuelle, mais maintenant, on va parler de streaming et de musique. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, on va faire un tour du côté de Google et notamment des smartphones Android. Vous savez que les smartphones Android viennent avec des applications préinstallées. Hein. C'est un deal que fait Google avec les constructeurs Android pour pouvoir justement asseoir une domination. On va leur lancer une enquête après que j'ai dit ça.
Ça va, ils ont assez de casseroles en ce moment.
Ouais, c'est ça, ils sont déjà sous le coup d'enquête. Mais ça permet en fait de pouvoir déployer à un plus grand nombre des services Google. Donc vous allez avoir Gmail, vous allez avoir Chrome, vous allez avoir, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ben, y avait Google Play Music, etc. Les films aussi, Google Photos, etc. Et là, tout simplement, c'est YouTube Music qui pointe le bout de son nez. Donc c'est pas complètement une nouveauté. Hein. Google avait déjà annoncé que YouTube Music, à terme, l'objectif, c'est qu'il remplace Google Play Music. Et ben là, ça y est, ça commence à se faire de manière plus précise, puisqu'en fait, Google Play Music ne sera plus installé par défaut sur les Android, mais ça sera YouTube Music, ça y est. YouTube Music a donné un petit coup de cul à Google Play Music pour le sortir de là.
Bah, il était temps. Moi, je suis honnêtement sur YouTube Music puisque j'ai l'abonnement YouTube Premium, donc ça me donne l'accès à YouTube Music. J'en suis très content. Après, je suis pas aussi exigeant que toi au niveau et qualité de son et les musiques présentes. Moi,
recommandation ?
À moi, tant qu'il y a les cœurs de l'armée rouge, je suis content. C'est tout ce que j'écoute toute la journée.
Oh, donc, je tiens à dire quand même qu'on a fait une session d'écoute YouTube Music et on a passé plus de 80% des morceaux qui nous étaient recommandés.
Oui, non, mais là, je faisais un truc expérimental. J'essayais de mettre un petit peu plus de rap dans mes recommandations et il nous a passé du rap de merde.
Pas du rap, hein.
Non, ouais, ils nous ont passé des trucs de merde. Oui. Mais voilà, maintenant, c'est affiné. Mmh. Il faut affiner. Mmh. C'est comme le fromage, le YouTube Music. Il faut affiner.
J'espère que c'est un peu plus rapide que le fromage. Hein.
Bof. Ça pue, hein, parfois.
Voilà, donc ne soyez plus surpris. Alors, rassurez-vous, ceux qui sont encore sur Google Play Music, vous pourrez toujours télécharger l'application depuis le Play Store, mais quand même, on vous conseille de vous préparer à faire le switch sur YouTube Music.
Oh, cette espèce d'agisme troublant. Pourquoi j'aurais pas le droit d'écouter du rap ? Et du rap, il y en avait, ça existe depuis longtemps quand même, hein, le hip-hop.
Quand même.
D'ailleurs, petit aparté, mais regardez Hip-Hop Evolution sur Netflix, c'est super intéressant. C'est pour ça que j'en réécoute du hip-hop en ce moment. Ça me rappelle mes vertes années.
Alors, sur Google Music, on peut uploader sa propre musique, ce qu'on ne peut pas faire sur YouTube Music. Faux, Tinis, c'est arrivé. Donc, je te conseille de jeter un œil, mais c'est une très très bonne remarque hein, que tu partages. C'est pour ça que je me permets de la mentionner. En effet, maintenant, YouTube Music va pouvoir lire les titres que vous avez sur votre smartphone. Donc voilà, plus de crainte là-dessus.
Pardon, j'avais une petite sonnerie dans mon Apple Watch.
Eh bien, on enchaîne.
Oui, on enchaîne tout de suite. Ouh là là. Parlons d'iOS 13, parce que certains d'entre vous, je le sais, ils me l'ont signalé sur Twitter, avaient des problèmes de chauffe de leur nouveau smartphone. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, c'est normal. Au début, quand on a un nouveau smartphone, généralement, on consomme plus de batterie et ça chauffe plus, parce qu'on a tendance à mettre plein d'apps. Et ce qu'on oublie toujours, c'est qu'on est en train de télécharger les 45 millions de photos qu'on a dans Google Photos ou dans Photos. Donc, c'est des manips qui bouffent de la batterie et qui font chauffer les smartphones. En fait, je me trompais un petit peu. Il y a vraiment des gens qui ont eu des problèmes de chauffe avec iOS 13 et même avec la 13.1. Eh bien, Apple arrive avec la 13.1.1. Je crois qu'elle est déjà disponible. Je n'ai pas vérifié ce matin. Elle va résoudre quelques petits problèmes qu'il y a eu au lancement avec justement la batterie des smartphones qui se vidait un petit peu trop vite et un problème avec les applications. Ça, Apple avait signalé qu'il y avait un problème avec les applications de clavier tiers sur iOS 13 qui pouvaient obtenir un accès complet à la saisie. Qui n'est pas génial, hein, quand même, comme vulnérabilité. Ça a été c'est corrigé, encore une fois, je n'ai pas vérifié, mais je crois que la 13.1.1 est déjà disponible. Et je vois Hermite de la Serpillière, j'aime beaucoup ton nom, qui nous dit « Le top du top pour l'iPhone 6S, la 13.1.1, la batterie dure beaucoup plus longtemps. » Donc, ça a l'air plutôt réussi. Et puis, voilà. Et c'est tout. Il y avait aussi des petits problèmes, une lenteur de la synchronisation dans la fonction rappel, ce dont je me suis aperçu parce que j'utilise de plus en plus rappel, et un problème pour certaines personnes qui n'arrivaient pas à restaurer un iPhone à partir d'une sauvegarde d'iPhone, donc ça pouvait être embêtant, et bien tous ces problèmes-là sont résolus. Il y avait aussi un petit problème d'affichage de signal parfait, toutes les barres, alors que la partie data ne fonctionnait pas. C'est a priori tout ça résolu. Donc une bonne nouvelle pour nos amis iOSiens. À toi, Marion.
Tout à fait. Et donc, on enchaîne avec un sujet un peu moins réjouissant, puisque c'est tout simplement les hommages à l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui est décédé,
jeudi ou vendredi,
c'était jeudi.
Je sais que c'est jour national aujourd'hui.
C'était jour national...
C'est aujourd'hui, le jour
national. Les drapeaux étaient en Berne vendredi, donc il était déjà décédé.
Oui. Mais la journée de deuil national, c'est aujourd'hui.
Donc il nous a quittés. Donc évidemment, il y a eu des hommages. Hein, les personnes, le peuple a voulu exprimer ses hommages à l'ancien président de la République. Et il était justement, le cercueil était exposé ce week-end à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Et beaucoup sont venus rendre hommage, hein, notamment le dimanche 29 septembre, donc hier. Et donc il y a eu une longue file d'attente. Hein, chacun voulait justement lui rendre hommage et être devant le cercueil. Et ce qu'on a remarqué au niveau des infos, une image a été un peu choquante, ou en tout cas a choqué certains. C'était justement cette photo de personne qui se prenait en selfie devant le cercueil de Jacques Chirac. Voilà. Et donc, suite à cette photo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, elle a été largement partagée, hein, sur Twitter avec divers commentaires de tweetos qui disaient « c'est une honte de se prendre en selfie devant un cercueil, vous n'avez pas honte, c'est comme ça que vous rendez hommage », etc. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est donc quand on fait la morale à une personne qui se prend en selfie, mais par contre, prendre des photos d'un cercueil, c'est pas du tout glauque non plus. Les donneurs de leçons étaient sortis. Certains disent même, est-ce que vous prendriez en photo un proche ? Je pense que là, comparer le décès d'un président de la République à un proche est complètement déplacé et inadapté. Donc je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il s'agit d'un personnage historique, hein, qui a contribué à l'histoire de la France. C'est une personnalité public qui est décédé et chacun y va de son deuil à sa manière. Et de tout temps et de toute époque, les gens ont voulu garder un souvenir de ces grands moments historiques lorsque de grands hommes sont partis, qu'on les apprécie ou pas, hein, voilà, ils ont marqué l'histoire et donc chacun à sa manière va vouloir garder un souvenir de ce moment historique du décès, du départ de Jacques Chirac. Et donc certains vont prendre des photos, certains vont se prendre en selfie, certains vont venir déposer une rose, etc. Enfin voilà, chacun marque cet événement à sa manière. Je pense que voilà, il faut pas. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel.
Je suis partagé.
Pour terminer, je pense que la société a évolué dans sa manière de gérer les événements publics et faire un selfie, c'est pas forcément un moment joyeux, mais c'est pour se dire j'étais là à ce moment-là. Moi, c'est mon interprétation. Et c'est surtout le ton de l'article que j'ai trouvé particulièrement odieux et méprisant. Méprisant et donneur de leçons. Et moi, ça m'a particulièrement choquée. Donc voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à prendre un peu de recul et même si on n'aime pas forcément la pratique, c'est aussi une manière de reconnaître qu'on était là et qu'on a participé à ce moment historique et qu'on dit au revoir à une personne historique. C'est pas parce qu'ils se prennent en selfie devant le cercueil qu'ils vont forcément le partager aussi sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Donc il y a des raccourcis qui sont un peu faits dans l'article et juste attention à ça, quoi.
Ouais, moi je suis partagé parce que c'est vrai qu'il y a un peu un côté vieux con en ce moment de critiquer les gens qui font des selfies, alors qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, c'est une évolution du temps. C'est une manière de dire j'étais là. Là où tu as raison, c'est que à la fois c'est un enterrement, donc ça se fait pas de prendre des photos et de faire des selfies à un enterrement, mais en même temps, c'était un enterrement. Enfin, c'est pas l'enterrement d'ailleurs, c'est la veillée au corps public. C'était destiné effectivement à être quelque chose de public. Jacques Chirac a droit à sa vie privée et on doit demander à quelqu'un quand on prend un selfie, même s'il n'est pas là, s'il peut, si on est d'accord. Mais en même temps, c'est aussi un personnage public. Donc il pourrait y avoir effectivement tout un débat autour de ça.
Mais, et encore une fois, les photos de ces hommages, c'est pas nouveau. Enfin, est-ce qu'on insultait les gens quand ils achetaient le Paris Match où il y avait l'enterrement de François Mitterrand dedans? Et pourtant, ces photos valent de l'or. Est-ce que c'est pas morbide de se faire un marché sur les photos de cercueils de personnes reconnues? Enfin, encore une fois, c'est pas une pratique qui est juste nouvelle. Au lieu d'avoir des photographes officiels, on va avoir chacun qui est capable maintenant, on the spot, de se prendre en photo, de prendre une photo et de se prendre en photo avec.
Ouais. Alors on prend au mot, on dit il ne doit pas y avoir de rançon de la gloire. C'est vrai que pour moi, il ne doit pas y avoir de rançon de la gloire. Mais là, ce qui est un petit peu différent, c'est la décision, et a priori testamentaire de Jacques Chirac, d'avoir une exposition publique de son corps, enfin de son cercueil. À ce moment-là, tu bascules dans le domaine de je rends cette image publique. Donc on n'est plus dans le domaine justement de la vie privée. C'est la nuance. Si par contre il y avait eu un enterrement comme, je ne sais pas, par exemple le général de Gaulle qui avait décidé pour un enterrement très privé, où il y avait juste l'âme quand ils ont amené le corps qui était public, et que quelqu'un avait pris une photo, là ça pourrait être choquant parce qu'il y avait une décision de la famille que ça soit privé. Donc voilà.
Il ne s'agit pas d'une cérémonie privée. Hein. Il s'agit justement d'une exposition du cercueil pour que chacun puisse venir lui rendre hommage à sa manière, qu'on aime ou pas la manière choisie par les gens, c'est une chose, mais ils n'ont pas sauté sur le cercueil, enfin se prendre en selfie, ce n'est pas un manque de respect. Certains peuvent être choqués, comme certains peuvent être choqués qu'on achète Paris Match pour connaître les trucs people des gens. Mais
on s'en fout pas. Et je pense fondamentalement que c'est de la tech, parce que vivre effectivement avec son temps et la technologie, c'est la technologie qui permet les selfies, c'est de la tech ticket. Qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire avec la technologie? Donc non, ça me paraît un débat très intéressant.
Je pense que c'est vraiment justement un sujet très très intéressant de comment la tech a modifié nos comportements et nous permettre des choses qu'on ne pouvait pas faire, parce que comme quelqu'un l'a très justement dit dans la chatroom, c'était compliqué de faire des selfies avec les anciens appareils photo.
Oui. Alors, tu sais, t'as le truc de je sais plus quelle, la poudre.
Mais c'est quand même intéressant. Après, certains me disent le plus choquant, c'est de faire une photo d'une personne qui prend un selfie pour faire le buzz. Alors là, c'était pas une photo, hein, c'était un reportage, tout simplement. Ce que font les news, hein, les journalistes, c'est qu'ils font un reportage sur justement cet hommage au président avec les gens qui viennent rendre leurs hommages. Il se trouvait qu'il y avait à ce moment-là une personne qui se prenait en selfie, et ce qui a généré un buzz. justifié, injustifié sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on voulait partager un peu
notre avis. Ça vend du clic, hein, le côté « oh là là, ces jeunes !» Ça vend beaucoup de clics, ça, hein, le côté d'être choqué par ces comportements-là. Ça fait cliquer. Allez, on continue. On va parler de Logitech, nos amis de chez Logitech, qui ont fait un gros achat, puisqu'ils ont acheté Streamlabs pour à peu près 89 millions de dollars. Streamlabs, ceux qui font du streaming, notamment du streaming de jeux vidéo, parce que c'est surtout sur jeux vidéo et le streaming de jeux vidéo, Streamlabs a fait sa route, est très très utilisé. C'est un logiciel gratuit qui permet effectivement d'ajouter tout un tas de choses sur son streaming live, d'intégrer son jeu. Bon, par exemple, nous, les petites inscriptions, ce genre de trucs, alors c'est pas Streamlabs, nous on le fait directement dans OBS, mais on peut utiliser d'ailleurs Streamlabs au-dessus d'OBS. C'est vrai que le streaming de jeux vidéo, notamment les streamers de jeux vidéo, utilisent beaucoup plus que nous des petits gadgets. Dès que quelqu'un fait une donation, il y a des petits machins qui s'agitent, etc. Moi, pour l'instant, et en concertation avec vous pour le mug, on est plutôt sobre sur les widgets qui apparaîtraient à l'image, parce que bah, c'est notre manière. Mais voilà, moi, je vais quand même... Je reste ouvert et je regarde un petit peu ce qui se fait dans le monde du streaming du jeu vidéo, parce qu'ils ont beaucoup d'avance sur le streaming.
Ouais, surtout que ça pourrait donner un peu plus d'interactivité avec la chatroom, etc. Mais justement, là, c'est pas dans ce sens-là qu'on est allé pour cette nouvelle édition.
Voilà, le mug aujourd'hui est autant fait pour les gens qui nous écoutent en replay que les gens qui nous écoutent en live. On essaye d'équilibrer, garder une certaine interaction avec la chatroom, mais penser aussi à ceux qui écoutent que ça pourrait être désagréable d'avoir des bruits de super chat ou des pop-up qui apparaissent à l'écran ou des trucs comme
oui,
ça.
Oui, mais tu vois, donc, par exemple, comme le vide ton fac qu'on garde à la fin, les cornes fac qu'on garde à la fin, ça pourrait être un moment où justement on utilise
tout à fait
ce genre d'outils.
Je vais te rajouter des boutons dans ton Stream Deck, tu vas être contente. Des trucs à activer.
Faut que tu m'en achètes un plus grand alors.
Oui, il y en a un plus grand qui est sorti. Il y en a un avec je sais plus combien de boutons, mais il fait 4 fois cette taille-là. Avec un tableau de bord. En tout cas, Logitech a effectivement payé 89 millions. C'est tout à fait dans la logique de Logitech, hein, ça tombe bien, puisqu'on sait que Logitech a racheté la marque Blue. Petit placement produit, hein, le Yeti, ça vient de chez Blue. Et bien maintenant, en fait, c'est Logitech hein, qui a acquis. Ils ont gardé la marque, hein, Blue. C'est pas des micros Logitech.
Ah bon, Blue s'est fait racheter par.
Oui.
Ah, je savais pas du tout.
Ah oui, non, mais Logitech est assez offensif justement sur le monde du streaming. Et il faut dire quand même que leurs webcams sont très populaires dans le monde du streaming. Il y a une autre marque que nous on connaît bien aussi, c'est Elgato, qui a pas été rachetée par Logitech, mais qui a été racheté par Corsair, la mémoire, etc. Donc, en tout cas, le marché du streaming, et paf, ça fait un super chat, merci Technisavoir. Le marché du streaming est un gros marché aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de streaming. C'est un marché qui intéresse beaucoup les constructeurs et qui devient très important. Et YouTube, en passant, si tu pouvais un peu améliorer le YouTube Live. Un widget Albert qui apparaît de façon inopinée. Bah, ça existe déjà, mais c'est pas un widget en fait.
C'est mieux dans la vraie version.
Exactement. En tout cas, Streamlabs ne va pas changer, il restera gratuit. A priori, il ne va pas changer de nom et pas devenir Logitech Labs. Ça reste Streamlabs, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va les solidifier et qu'il y ait plus de rapport entre le hardware et le software dans le live, moi je dis merci, parce que ce n'est pas toujours simple de régler les choses autour du live. Voilà.
On termine avec un peu de divertissement en compagnie de Minecraft Earth. Alors vous connaissez tous Minecraft, et vous avez à mon avis tous entendu parler de Minecraft Earth, parce que c'est le pendant de Pokémon Go, donc, mais dans l'univers Minecraft. Donc tout simplement Minecraft en réalité augmentée dans l'environnement qui nous entoure, dans les villes, dans les rues, près de chez vous, lorsque vous rendez au travail, vous allez pouvoir jouer à Minecraft en construisant des structures, des maisons sur les bâtiments et l'environnement existant. Donc ça a l'air assez cool. Je vais quand même en profiter du coup pour vous montrer un petit peu rapidement la bande-annonce du jeu, parce que ça vaut quand même le coup de regarder ça. Hop, je lance voilà, je lance la la bande-annonce. Et donc, tout simplement, vous voyez une jeune fille avec son sac à dos qui marche dehors dans la rue, dans son quartier. Et elle voit donc les gens qui sont tout simplement concentrés à leur activité quotidienne. Et tout simplement, elle sort ensuite son smartphone et elle enclenche l'application Minecraft Earth qui lui permet de récupérer des blocs Minecraft au fur et à mesure où elle se promène. Et son environnement se change pour y inclure les bestioles du bestiaire de Minecraft, pouvoir rencontrer des gens qui développent leur petit univers sur leur table de cafétéria Minecraft, de voir des monstres Minecraft qui transpercent les bâtiments de la ville, voilà, et qui permet donc de s'immerger dans l'univers Minecraft. Donc c'est assez, assez malin, ça a l'air assez cool. Ça montre pas trop le gameplay, hein, pour être honnête. On voit pas trop comment on va interagir encore avec ça. Mais a priori, de ce qu'on sait, c'est que ça va reprendre énormément de la logique de Pokémon Go. Donc il va y avoir une notion de collection. Au fur et à mesure de se balader dans la rue, on va pouvoir récupérer du matériel, donc là des blocs Minecraft, pour pouvoir justement construire ses propres structures. Voilà, donc il y aura une notion de collection, de construction, de pouvoir jouer avec l'environnement. Donc ça va être en gros, c'est ce que dit l'article de Polygon, ils sont assez dithyrambiques pour le coup sur le jeu en disant que c'est exactement dans la même veine que Pokémon Go, mais plus riche, plus mieux pensé, plus mature, etc. Donc ça donne assez envie.
Je sais pas ouais, ce que t'en penses. Moi je suis... en fait, le truc qui m'a toujours frustré, moi j'ai joué effectivement à Ingress, j'ai joué à Pokémon Go. J'ai, comme toi, détesté le Harry Potter. En fait, ce qui me manque le plus, c'est une véritable interaction avec le monde en réalité augmentée. C'est-à-dire que c'était quand même très limité dans Pokémon Go, le marquage de ton territoire, tu vois. On a envie, et là on en revient au selfie, on a envie de dire « j'étais là ». On a envie d'inscrire des trucs. Alors, ça va être un beau bordel, mais j'espère qu'il y aura un côté chaotique à Minecraft Earth, où on pourra un peu construire et déconstruire et reconstruire et qu'il y aura... je pourrais faire mes petites constructions sur ma table de salon, mais j'espère aussi que je vais pouvoir faire des constructions un peu n'importe où et qu'elles restent. Et peut-être tous les ans, on efface tout, on recommence. Mais je trouve, d'un point de vue créatif et artistique, le potentiel d'un Minecraft partagé en VR beaucoup plus important que Pokémon Go. Et je serais très déçu si le jeu consiste à ramasser des petits machins et pas pouvoir vraiment laisser une trace, en fait.
Oui, je pense que ça va être la grande différence avec, avec Pokémon Go, hein. C'est qu'en fait, tu vas pouvoir justement garder tes constructions dans la ville. Est-ce qu'il y aura une durée limitée? Ça serait une bonne question. Parce que
Jérôme veut uriner partout, on me dit. Mais oui, je veux marquer mon territoire.
Et donc justement, pourquoi je vous parle de Minecraft Earth? Mais tout simplement parce que Microsoft a annoncé lors de son événement ce week-end Minecon 2019 que le jeu allait être mis à disposition en bêta limitée, hein, un free-to-play game, et ça va être disponible dans certaines villes comme Londres, Seattle, Stockholm et Tokyo, dans un accès anticipé dans ces villes, dans ces pays. Voilà, donc si vous habitez dans l'une de ces villes, vous êtes un heureux potentiel joueur de Minecraft Earth qui va pouvoir permettre d'éprouver un peu le jeu avant sa sortie officielle. Mais voilà, il y a un accès anticipé disponible dès octobre. Voilà.
Et Oleg qui nous fait remarquer, c'est peut-être le moyen de faire pop des canards Minecraft sur le cercueil de Chirac, c'est moderne ça. Allez, go. Voilà, c'est la fin du Kawa, la fin des news fraîches du matin. On va attaquer tout de suite sans attendre parce qu'on a un petit peu de retard. On va attaquer la tartine et on va parler d'une tartine radioactive puisque nous allons parler...
Avant de parler de la tartine,
le sponsor,
on va quand même parler de Shadow.
Eh bien, vas-y, fais ta maline.
Eh bien, tout simplement, comme chaque semaine depuis qu'on a lancé le mug, Shadow est notre sponsor. Et d'ailleurs, on n'est pas équipé du tout là, mais j'ai l'application Shadow sur mon Mac.
Ah, tu l'as mis au sale, le petit mug qui...
Non, il est dans le...
Bon, c'est
avec
pas grave.
Les autres tasses. Et donc, tout simplement, puisqu'ils sont notre sponsor, ils ont gentiment accepté de mettre à disposition, de gagner des mois Shadow pour vous faire découvrir. Donc, un mois chaque semaine pour vous faire découvrir tout simplement l'expérience Shadow, parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que d'essayer pour voir si ça vous convient, en fait, en fonction de votre connexion, en fonction de votre usage et en fonction de vos besoins. Et donc, du coup, bah, pour gagner un mois, j'ai l'impression d'avoir un chien de voiture, tu sais, qui fait bouger la...
J'approuve ce message.
Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenter de gagner un mois de Shadow? Eh bien, il faut tweeter, donc il faut suivre le compte Shadow sur Twitter. Il faut mettre le hashtag
#lemugnowtech et #ShadowPC et expliquer pourquoi vous avez envie de gagner un Shadow PC.
Et donc, c'est ça le plus intéressant. En fait, il faut dire pourquoi vous allez utiliser votre Shadow. Donc, on ne veut pas tout connaître de votre vie personnelle, mais si vous avez un jeu ou une application ou un usage bien spécifique qui va que vous allez pouvoir faire grâce au Shadow, bah, c'est cool d'en savoir un peu plus. C'est utile pour Shadow et nous, on est un peu curieux, donc on aime bien savoir aussi. Exactement. Voilà. Et donc, le tirage au sort pour tous ceux qui auront tenté de gagner durant toute la semaine se fera le vendredi et sera annoncé.
On a déjà eu deux gagnants, donc le troisième cette semaine.
Voilà, donc à vos claviers, vous avez un modèle de tweet qui est gentiment partagé par le Nightbot dans la chatroom, pour ceux qui ne sont pas sûrs de faire le bon tweet, et comme ça, tout se passe bien.
Voilà, et donc on va attaquer la tartine radioactive, puisque nous allons parler de Tchernobyl maintenant. Et bienvenue dans la tartine tendance Marion ce lundi matin. Nous avons décidé de nous partager les tartines. Quand il y aura des débats, ça sera un peu les tartines de Jérôme. Et d'ailleurs, il faut que je pense à te mettre la tartine de Jérôme en générique. Bon, ça va être compliqué cette histoire. Mais aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Tchernobyl parce que c'est une mini-série, donc Tchernobyl, que nous avons regardé tous les deux. On voulait voir un petit peu ce que vous en pensiez. Et surtout, on est tombé sur un article intéressant hier de Science et Avenir qui nous parle de tout ce qui n'a pas été dit dans la série HBO Tchernobyl. Donc ça nous paraissait intéressant. Alors rapidement, Tchernobyl, c'est une mini-série télévisée dramatique historique. C'est une production américano-britannique en 5 épisodes créée et écrite par Craig Mazie et réalisée par Johan Renck et diffusée du 6 mai au 3 juin 2019. Ça a été d'abord diffusé sur HBO et Sky. En France, ça a été sur comment ça s'appelle la chaîne, c'est OBS
OCS.
OBS.
OBS, c'est notre logiciel pour streamer.
Oui, je suis perdu dans mes acronymes. Bref, j'ai pas dit OCS cette fois. Vous pouvez aussi la trouver. J'ai vu qu'elle était disponible sur YouTube. Alors, contre paiement, hein, je crois que c'est deux. Oui, c'est pas très. Les images que vous voyez, ben c'est, voilà, on voit un petit peu la série. Vous pouvez la voir sur YouTube. Et je crois sur Amazon Prime à regarder. Bref, si vous ne l'avez pas vu, c'est une série qui décrit la catastrophe nucléaire de Tchernobyl survenue en avril 1986 en Union soviétique, parce qu'on était encore en Union soviétique, et les efforts de nettoyage sans précédent qui ont suivi. C'est vrai que cette série, quand on a décidé de la regarder, c'était effectivement pour des motifs historiques. C'est une série, et là tu vas me donner une première opinion, Marion. C'est une série, je trouve qu'elle n'est pas chiante du tout à regarder. Ça aurait pu, mais ils ont suffisamment transformé l'histoire.
Désolée pour la petite image sympathique du matin. Là. Ouais. J'ai essayé de couper juste avant, mais...
Non, mais Maurice, on ne fait pas forcément du neuf, hein, dans la tartine. On vous parle aussi de séries qu'on a aimées et qu'on veut partager avec nous, avec vous. Moi, j'ai trouvé que la série se regardait bien, Marion. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait suffisamment d'action. Ils ont quand même, ils n'ont pas transformé l'histoire, mais ils ont simplifié certains personnages ou ils ont regroupé dans un personnage plusieurs personnages réels. Pour qu'on puisse mieux suivre l'histoire, il y a notamment cette femme qui fait une enquête pendant l'événement. En fait, c'était plusieurs personnes. Ils l'ont regroupé en une seule personne. Par contre, le scientifique qui est joué par...
Voilà, donc on parlait du personnage interprété par Emily Watson, qui en fait, on le sait au générique de fin, en fait, rassemblait en fait la communauté scientifique qui a pu accompagner justement suite à ce drame et aider justement à en savoir un peu plus et à enquêter sur les effets. Il y a d'autres acteurs, hein. Moi, un de mes acteurs préférés que j'ai adoré retrouver, c'est Jared Harris, un de mes acteurs britanniques fétiches.
Il a une voix.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il a une voix reconnaissable. Alors là, ça vous dit peut-être pas grand-chose, parce que là, la photo, en plus, c'est pas hyper reconnaissable, mais il a une voix tellement typique et il donne tellement de personnalité que c'était un vrai plaisir de le retrouver. Mais c'était pas le seul, hein. Il y avait plein d'acteurs connus.
Alors, tu continues à montrer les acteurs pendant que je parle. Il y a eu des polémiques autour de cette série. Certains ont dit effectivement que c'était une version trop américanisée. Ça, c'est la Russie. Alors, en fait, quand on regarde dans le détail, les Russes sont partagés sur cette série. Les historiens russes sont plutôt contents de cette série parce qu'elle rétablit un certain nombre de faits et que, globalement, la trame des événements a plutôt été bien respectée. Et l'équilibre des pouvoirs et notamment le stress de la deuxième explosion qui aurait fait disparaître, qui aurait été beaucoup plus grave, il y a ce stress-là dans la série, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses pour prévenir en fait cette deuxième explosion. Donc beaucoup d'historiens, et notamment russes, disent pas mal du tout pour une série historique. Par contre, c'est le gouvernement russe qui n'est pas du tout content, qui dit c'est une version trop américaine des faits. On va tourner notre propre série sur Tchernobyl. Donc, on attend, on verra. Mais globalement, ce que les Russes ont bien aimé, c'est quand même il y a des vrais morceaux d'héroïsme dans cette histoire. Il y a des gens qui sont sacrifiés pour sauver le plus grand nombre. Et leur image n'a pas été égratignée. Ce n'est pas non plus des Russes débiles qui ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, voilà, c'est...
Ça ne les met pas non plus sous leur meilleur jour, mais ce n'est pas une caricature.
C'est plus l'administration soviétique qui est démontée, mais je ne pense pas complètement à tort, parce que la lenteur bureaucratique du soviet a créé pas mal de problèmes, et notamment Tchernobyl, où les mecs avaient tellement peur de prendre des décisions que ça devenait difficile pour eux. Et alors nous, ce qui nous a intéressé, pendant que vous donnez vos réactions dans la chatroom, et Marion, je te propose... tu regardes un peu la réaction des gens sur Tchernobyl et que tu interviennes. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous parler des questions qui se posent. Alors, on va un peu spoiler, mais en même temps, c'est une série historique. Donc, on ne vous spoile pas vraiment les événements. Mais ceux qui n'ont pas regardé, à la limite, ne m'écoutez pas. Parce que je vais spoiler 2-3 scènes pour voir si elles étaient véridiques ou pas.
On fait du fact-check.
Voilà, on fait du fact-check. La première chose, c'est est-ce que, et vous avez vu des images très choquantes, les brûlures dues aux radiations se développent-elles aussi vite qu'on peut le voir dans la série ? Non, a priori, il n'y a pas, en tout cas, de témoignages avérés de cette époque-là, de saignements immédiats après avoir touché des substances radioactives. On le voit chez les pompiers.
Bon, on le voit même là, en fait, dans le trailer. Il y a une image, en fait, d'un pompier qui a la main qui saigne. Et en fait, après avoir touché un bloc d'une des retombées. Et en fait, ça c'est pas prouvé, en tout cas.
Alors,
ça ne déclenche pas des saignements.
Des saignements immédiats. Mais par contre, ça va très vite, hein, après. Hein. Il y a quand même des pompiers qui sont partis en 2, 3, 4 semaines derrière, avec des saignements internes,
3-4 semaines de manière plutôt effroyable.
Oui, oui, oui. Et bien évidemment, bon, on n'a pas vraiment de photos de l'époque. Hein. Il ne faut pas oublier que c'était quand même encore l'URSS, même si c'était sous Gorbatchev.
Et il faut savoir aussi qu'on a attendu jusqu'en 89
pour que des dossiers sortent.
Exactement, parce que l'URSS a dévoilé dans sa démarche de mettre au jour certaines choses, a dévoilé des fichiers auxquels on n'avait pas accès auparavant. Et c'est uniquement là qu'on a saisi l'ampleur, en fait, de ce drame.
Bien sûr. On nous précise, oui, les brûlures, d'ailleurs, on parlera de fameux bronzage radioactif. Les brûlures, oui, c'est les saignements immédiats qui ne sont pas avérés. Les habitants de Pripyat, évacués plus d'une journée après l'explosion, ont-ils été condamnés à mourir plus tôt ou tard des radiations ? Là encore, c'est difficile à dire. C'est évident qu'il y a eu une grosse recrudescence des cancers et qui continue, hein, 33 ans après l'événement, chez les enfants enfants qui sont nés dans la ville de Pripyat, qui était donc à côté. L'événement étant arrivé un week-end, il y a eu effectivement une exposition relativement longue des habitants, mais qui ont été évacués tout de suite après.
Une trentaine d'heures après, ouais.
Une trentaine d'heures d'après. C'est un petit peu partagé. D'abord, c'est dur parce que le recensement n'a pas vraiment été fait, donc on ne sait pas exactement. C'est évident que ça a eu des influences sur la population, mais tout le monde n'est pas... Dans la série, ils sont allés un petit peu loin en disant que voilà, tout le monde avait disparu, qui était sur le pont, ce genre de choses. C'est pas des faits historiquement avérés. L'histoire du pont, tu sais, où ils regardent l'explosion, que tous ceux qui étaient sur ce pont seraient morts. En fait, c'est un raccourci qui a été fait.
Là, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'ils disent que les personnes qui étaient justement à l'extérieur au moment de l'explosion.
Oui, j'allais parler des pêcheurs.
Notamment des pêcheurs, ont été beaucoup plus évidemment exposés parce qu'ils étaient à l'extérieur lors de l'explosion.
Ouais.
Rappelle-toi, dans la série, les personnes qui sont sur le pont en ce moment-là, c'est au moment de l'explosion.
Oui, mais
donc, c'est pas complètement,
Le pont n'a pas vraiment existé, en fait. Il n'y avait pas des gens la nuit qui regardaient l'explosion sur un pont.
Ils ne sont pas allés en détail jusqu'à dire ça. Ils ont juste dit que les personnes qui étaient à l'extérieur au moment de l'explosion étaient évidemment beaucoup plus... impacté par les rayonnements.
Et effectivement, justement, ces fameux pêcheurs qui étaient à l'extérieur au moment de l'explosion ont eu ce qu'on appelle le bronzage nucléaire. Donc, en fait, tu as la peau tannée, c'est une brûlure, en fait, de ta peau par l'explosion. Dans les petites choses, est-ce que des brigades ont vraiment été envoyées pour tuer les animaux errants dans la zone de confinement,
ouais.
C'est un truc dur.
Il y a tout un épisode dédié à ça. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était un des meilleurs épisodes d'ailleurs de la mini-série. C'était fait avec beaucoup d'intelligence, d'humanité. Et en fait, oui, c'est avéré. C'est-à-dire qu'il y a eu des brigades de l'armée dont les missions étaient d'aller tuer. Et euthanasier en fait, donc tuer hein, les animaux. Alors pourquoi ? Tout simplement quand la ville a été évacuée de Pripyat, la ville a été évacuée, l'armée a donné genre 30 minutes aux personnes pour rassembler leurs biens avec interdiction formelle de prendre avec eux les animaux de compagnie. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient infectés aussi et tout simplement ils devaient évacuer la population en priorité. En plus, les habitants n'ont pas opposé beaucoup de résistance. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que 2-3 jours après, ils reviendraient chez eux. C'était la dernière fois qu'ils voyaient leurs animaux de compagnie. Ils ne sont jamais revenus sur les lieux.
Épisode.
Et donc, du coup, comme ces animaux étaient contaminés, pour éviter que de génération en génération, ça se transmette avec des malformations, etc., et ben, en fait, le but était d'arrêter ça pour éviter qu'il y ait toute une faune.
Et même si c'est dur, c'était aussi les animaux crevaient de faim.
Ils allaient crever de faim et ils allaient mourir dans d'horribles conditions puisqu'on a vu les conditions des humains irradiés dans la série. Donc en fait, c'est aussi un acte de charité pour éviter d'extrêmes souffrances à ces animaux.
À quel point la région de Tchernobyl est encore contaminée ? Alors là, il y a débat. Effectivement, dans les faits, il y a 33 ans, la radioactivité est montée à un niveau 200 000 fois supérieur à la normale dans les environs de la centrale, quand même. Sur 2600 km², soit un périmètre d'environ 30 km² autour du foyer, une zone d'exclusion a été ainsi mise en place par l'armée soviétique. Et aujourd'hui, on recense près de 1000 décharges nucléaires autour de Tchernobyl au moment de l'évacuation. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, alors là on rentre dans les mots scientifiques, mais le cesium-137 dont Tchernobyl a dispersé dans l'environnement près de 1000 fois la quantité relâchée par la bombe de Hiroshima, de la même manière que le strontium-90, n'auront disparu que dans 3 siècles. Le plutonium-2039, qui a empoisonné les alentours de la centrale et la ville de Pripyat, lui a une demi-vie de 24 000 ans. En sachant qu'il faut 10 fois sa demi-vie pour qu'il disparaisse en totalité, on ne pourra espérer un repeuplement de la zone que dans 240 000 ans environ. C'est énorme. Donc, aujourd'hui, vous avez vu des youtubeurs qui sont allés à Tchernobyl et tout ça, c'est faisable, les taux de radiation sont bien retombés à certains endroits, mais y habiter, c'est une autre paire de manches. Et ça pose d'autres problèmes, moi, que je trouve passionnants. C'est comment communiquer éventuellement à des hommes qui habiteront dans autour, dans 240 000 ans,
ouais.
Dans 200 000 ans, qu'il ne faut pas habiter là. Comment on leur signale? Et c'est un article que dont je t'avais parlé, mais c'était plus pour les décharges nucléaires. Comment on peut avertir des humains dans le futur qu'il ne faut pas aller là? On le sait, il suffit de mettre une croix, dire ne pas venir pour qu'un humain il ait envie de creuser. Hein. Donc c'est ultra flippant de se dire qu'on crée des problèmes pour d'éventuels humains qui arriveront dans si longtemps. Comme Pripyat, la centrale a été laissée dans le même état en 1986 après la catastrophe. Et ben, contrairement à ce que vous croyez, la centrale a continué à fonctionner. Elle a continué à fonctionner jusqu'en décembre 2000. Donc, les réacteurs 1 ou 2 ont été très rapidement remis en marche. Le réacteur 3, jumelé au réacteur 4, qui est celui qui rentre en fusion, mobilisa un grand nombre d'ouvriers pour être séparés du numéro 4 et remis en service. Les réacteurs 5 et 6, qui étaient en construction au moment de l'accident, n'ont jamais été terminés et jamais mis en route. Donc, on pourrait croire qu'ils avaient tout fermé. Non, ils ont continué quand même à Tchernobyl à produire l'énergie.
Et il faut imaginer les personnes qui ont travaillé là jusqu'en 2000.
Jusqu'en 2000. Ben, en fait, ils ont construit une autre ville à 45 km pour qu'ils puissent habiter. Mais tu venais tous les jours dans la zone, quoi. La vache. Dans la chatroom, qu'est-ce que vous avez pensé de Tchernobyl? Est-ce que vous avez aimé?
Alors, juste un point quand même. Attention, la série est une des séries les plus difficiles que j'ai eu l'occasion de regarder. Il y a des images extrêmement choquante, on voit beaucoup de choses. Vous voyez les corps dans un état que moi je n'avais jamais vu, à part dans des films d'horreur avec des effets spéciaux très mal faits.
On a d'ailleurs Vincent qui nous dit « j'ai pas le courage pour regarder une série pareille ». Il ne faut pas regarder ça à n'importe quel moment de la journée.
Oui, et puis il faut à la rigueur faut regarder quelque chose d'autre avant de se coucher que Tchernobyl. Mais la série est quand même d'une qualité exemplaire. Hein. Elle est vraiment très, très intéressante d'un point de vue historique. Même si on sait ce qui se passe, il y a aussi une angoisse qui augmente. Et je trouve qu'il y a quand même des différentes phases de maturité dans cette histoire de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'il y a la première phase où c'est pas grave. Ce qui s'est passé, c'est pas grave. Personne s'alerte. On essaye de réduire au maximum les angoisses que ça aurait pu générer. Mais on dédramatise énormément. Et puis, on est ensuite dans la phase où concrètement, c'est très grave. Concrètement, c'est très grave et il y a un danger encore plus imminent. Et plus dangereux qui risque d'arriver. Comment on peut contenir ça? Et donc, il y a toute une phase dans comment on fait pour trouver une solution pour limiter les risques de cette contamination encore plus grave.
D'accord.
Etc. Et puis, à la dernière étape, c'est la reconnaissance des faits sur une échelle internationale, où il y a une phase dans les tribunaux, etc. Et donc, c'est vraiment assez intéressant comment c'est découpé. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est une série salutaire qui n'était pas facile à faire parce que c'est des événements en série qui sont difficiles, mais ils ont mis suffisamment d'action, je trouve, pour qu'on ait envie de suivre. On nous précise quand même des choses importantes dans la chatroom. Elle n'est pas disponible sur Amazon, contrairement à ce que j'ai dit. Donc, vous la trouverez que sur YouTube. Les avis sont partagés. Certains nous disent dans la chatroom que la série est surcotée. D'autres ont beaucoup aimé. D'autres l'ont trouvé assez dégueulasse aussi. Le charbon fait plus de morts que le nucléaire. Oula, on part sur un débat sur le nucléaire, c'était pas forcément, c'est pas forcément l'endroit. On nous dit le youtubeur Le Réveilleur a fait d'excellentes vidéos factuelles sur le nucléaire. D'accord. Combien de centrales en France? Je sais pas, mais on en a beaucoup.
Alors, à savoir, la série n'est pas accusatrice sur le nucléaire. Pas du tout. Moi, j'ai trouvé que c'était justement très, très intéressant. Ce n'est pas un argument contre le nucléaire. Donc, tous ceux qui sont pour le nucléaire, contre le nucléaire, etc., la série ne va pas aller dans votre faveur. Elle est très neutre et en fait, elle va être... j'allais dire factuel, mais moi je n'y connais rien, mais en tout cas, elle va montrer des insuffisances et un manque de communication et qui va être incombé plutôt à l'humain qu'à la technologie et à l'énergie en elle-même.
On nous dit 58 centrales nucléaires, 58 réacteurs en France, d'accord. Fukushima, alors je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas dans quelle mesure l'accident de Fukushima ressemble à celui de Tchernobyl. Mais
non, il ne ressemble pas en fait. J'avais lu un article récemment, c'était lié à l'espèce de tsunami qui a eu lieu.
Oui, ça oui.
Qui en fait a coupé... le système
de refroidissement
qui était censé fonctionner en cas de panne,
ouais.
C'est-à-dire sans électricité. Et en fait, le tsunami, voilà. Donc, en fait, c'était lié à autre chose encore une fois.
La structure des épisodes est vraiment incrémentale, c'est-à-dire, Olivier, les centrales françaises ne sont pas du même type. Non, c'est vrai qu'elles ne sont plus du même type maintenant.
Il est 9h.
Ouais, il est 9h, on va peut-être passer effectivement au cornfac, mais c'était intéressant. En tout cas, nous, on la conseille. Marion, tu es d'accord?
Oui.
On conseille cette série.
Attention et pas à ne pas montrer aux enfants.
Oui.
Il y a des images très choc.
Effectivement. Mais voilà. Allez, on passe au cornfac. Les cornfacts, c'est le moment de l'émission où vous nous posez des questions, on vous y répond. Je crois qu'il y a une question platinium. Oui, non, pas de question platinium, mais une annonce pour le thread. Voilà. Donc, ceux qui veulent poser des questions platinium, nos contributeurs platinium sur Tipeee, vous avez un thread dans l'espace qui vous est réservé sur le Slack, donc platinium. Vous pouvez mettre vos questions directement et Samuel les mettra effectivement dans les questions platinium qui sont prioritaires.
Question Peak Design. Jérôme, as-tu le sac Travel Duffel 65 litres et est-il vraiment utilisable en sac à dos confortable pour de la randonnée de 2 ou 3 jours?
Alors,
à savoir que Jérôme ne fait pas de randonnée de 2 ou 3 jours.
Si, je pourrais. Oui, j'ai le 65 litres. Oui, c'est un bon sac à dos. Oui, il est confortable. Non, je te le recommande pas pour 2 ou 3 jours. C'est quand même pas un sac de rando. C'est un sac de déplacement de voyage. Tu peux porter des charges lourdes. Il est très confortable. Mais même s'il a une ceinture et tout ça, si tu fais vraiment de la grosse rando et tout, je pense pas que ça soit un très bon sac de rando. Mais bon, je me trompe peut-être. C'est faisable, mais c'est peut-être pas un excellent sac.
À propos du clavier Logitech que tu avais testé, tu as eu des retours de leur part sur le fail de la sortie? Il y a eu un fail de la sortie?
Non, c'est pas un fail, c'est qu'ils sont un peu débordés par leur succès. C'est-à-dire que c'est ça dont tu parles en fail. C'est que effectivement les gens ont précommandé et en fait ils sont débordés de demandes et du coup les livraisons sont genre en décembre. D'ailleurs j'ai vu une question. Jérôme, un hôtel au lac Léman, c'est pas une rando de 3 jours? Je suis même pas parti avec le 65 litres, donc tu dis n'importe quoi au lac. Les bibliothèques derrière, les livres de Marion. Au-dessus, ceux de Jérôme, en dessous. Non, il n'y a pas mes livres ici.
Ben non,
c'est que ceux de Marion.
Chez moi.
C'est chez Marion. Hein. Nous vivons encore séparément.
Et c'est un peu le bordel dans ma bibliothèque. Alors, ne me dites pas qu'il faut que je range ma bibliothèque. Hein.
Le hacker Axiom a publié les sources d'une faille présente sur tous les iPhones.
Oui, on l'a pas traité ce matin, mais on l'a vu. Oui.
On a vu effectivement la faille de tous les iPhones en dessous du 10R qui utilisait tous les processeurs. Il y a une faille et en plus, elle n'est pas réparée. J'en parlerai peut-être demain, j'attendais un petit peu que l'histoire se déroule en fait. Non, alors clavier clim, je fais un retour là-dessus, ne l'achetez pas. Ils ne m'ont pas sponsorisé à l'époque, ils m'avaient juste envoyé les produits, j'avais dit qu'ils étaient pas mal pour le prix, et en fait, en même pas 3-4 mois, les touches se sont mises à s'effacer, celles avec lesquelles je jouais. C'est le problème de nos tests, on ne fait pas des tests longs sur les trucs, mais je vous fais un retour. La souris clim a très bien tenu, mais le clavier, je ne le conseille pas du tout. En tout cas, celui que j'ai testé à l'époque, les touches se sont effacées très rapidement, donc c'est de la merde. Voilà.
Tu pourrais prendre un livre au hasard dans ta bibliothèque et le présenter, par exemple. On n'est pas une émission culture encore. Hein.
Si, avec le streaming, là, on vient de parler de Tchernobyl.
Oui, mais bon, je pourrais parler d'audiobook, mais je pourrais pas le sortir de la bibliothèque.
À quand un live de lecture, Marion? Remarque quelque...
Et bien alors, juste pour vous dire, c'est des livres que... les premiers livres que j'ai achetés, c'est-à-dire que tous les récents, je les achète en e-book, donc c'est pas les plus glorieux que j'ai dans ma bibliothèque.
Le Z6, on vous en parlera bientôt, mais on est plutôt très content, hein, effectivement, du Z6. Pourquoi rien sur les causes et les conséquences de les... Alors, Rouen, on a eu un mot en début d'émission. Là, pour le coup, c'est pas très... Si on se met à parler de Rouen, il aurait fallu parler de Jacques Chirac. Bon, on en a parlé avec les selfies, mais...
Alors, voilà. C'est trop tôt pour Rouen. Tout simplement, certains disent, oui, les raisons de l'explosion, etc. Il faut peut-être laisser aux gens le temps de faire leur enquête. On n'est pas journaliste.
Oui, puis ça sera pas forcément technologique, quoi.
Voilà, on n'est pas les mieux placés. Tchernobyl, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, il y a eu des années et des années là-dessus.
Non, mais
et on a parlé de la série.
On parle de la série dans le cadre du streaming, en fait.
Mais on n'est pas là pour analyser les explosions des usines, quoi.
On précise, parce que peut-être certains ne sont pas au courant, mais la tartine de Marion, c'est des infos concernant le streaming, les bonnes choses à streamer en musique, à regarder en tout cas, en musique, en série, à écouter. C'est la tartine de Marion.
ADAD, connais-tu un bon service en ligne de sauvegarde? Ben Backblaze, hein, c'est celui qu'on recommande à chaque fois, qui est facile.
Alors effectivement, on aurait pu parler du traitement des réseaux sociaux, des événements de Rouen, mais on n'a pas trouvé vraiment de choses intéressantes là-dessus. Hein. Tchernobyl, c'est 1985, c'est, je crois que c'est ce qu'on a dit. Il y a eu un très gravement irradié, il me semble, à Fukushima, il vit... Un mois, il a vécu un mois pendant... La... Oui, bah oui, oui, il y a eu des morts, hein, Fukushima aussi. Hein. Marion, spécialiste des sauvegardes.
Que mettez-vous généralement sur votre tartine, Jérôme?
Moi, je... Mais en vrai ou dans ma tartine du mug?
Bah, je pense en vrai.
Je suis assez traditionnel confiote, hein, petite confiture. Après, parfois je mets du beurre à la cannelle, parce que ça j'adore. Juste du beurre à la cannelle sur une tartine de pain, c'est super bon. Et parfois, mon petit dérapage plaisir, c'est du beurre de cacahuète avec de la confiture, parce que pour moi, c'est mon enfance. Le beurre de cacahuète, c'est mon Nutella à moi. J'ai passé mon enfance aux États-Unis avant que vous disiez « Ah, c'est dégueulasse, c'est le beurre de cacahuète !» Oui, ben moi, c'est le Nutella que je trouve dégueulasse. Voilà. Hein. Marion, tu as eu des précommandes de l'édition limite du nouvel album des Strokes? Là, tu viens de faire un... Là, tu viens de lui faire un stroke.
J'ai pas vu passer la news. What?
What? Là, elle est furieuse.
Non, bah merci pour l'info, Thomas. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce qu'il est 9h07.
C'est super bon le beurre de cacahuète.
Ah non,
Team beurre de cacahuète.
Voilà, Thomas, non, je déconne.
D'accord. Ah putain, non, mais faites pas des coups
faites
comme
pas
ça, Marion.
C'est pas cool.
C'est pas cool.
Vous m'avez fait un saut au cœur, là.
Allez, il n'y a pas d'autres questions. Il est 9h07. On a pris un petit peu de retard ce matin. Il faut encore qu'on trouve le bon réglage de la ceinture et du pantalon du mug tous les matins. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait dedans.
Allez, très bonne journée à tous.
On se retrouve demain, hein, pour le mug numéro 13.
Avec
ça
Jérôme.
Sera avec moi et Marion mercredi, Guillaume jeudi et le grand mug sur la chaîne principale vendredi. Des bisous. Ciao
bonne
tout
journée.
Le monde. Ciao, ciao.